Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Fun for you. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour votre rendez-vous santé, bien-être et vie intime. Avec aujourd'hui un sujet intéressant, comment vivre mieux et plus longtemps, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec notre invité du jour. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Dr William Berrebi. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors tu es médecin spécialiste en gastro-entérologie et en études du microbiote intestinal et sur ses impacts sur la santé. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? C'est assez, assez compliqué à comprendre.
Alors le microbiote intestinal, c'est 39 000 milliards de bactéries qui sont dans l'intestin et qui sont l'équivalent de 39 000 milliards d'ordinateurs microscopiques intelligents qui vont communiquer avec différents moyens, notamment le nerf vague ou certains neurotransmetteurs comme la sérotonine avec le cerveau et avec tous les autres organes.
Okay.
Et en fait, le microbiote intestinal, c'est l'organe qui est le plus important dans la santé humaine puisque c'est lui qui contrôle en fait tous les autres organes.
On entend souvent dire que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Quand on t'écoute, on est complètement là-dedans, en fait.
Alors, moi, je l'appelle premier cerveau. Je l'appelle premier cerveau parce que, en fait, celui qui régule la santé, c'est le microbiote et pas le système nerveux central. Alors, le système nerveux central, oui, il nous donne des émotions et on pense, mais c'est pas lui qui régule notre santé. C'est même l'inverse. Puisque, par exemple, la sérotonine, hein, l'hormone du bonheur, est fabriquée à 90% par les bactéries intestinales.
OK.
Et seulement à 10% par le cerveau.
Alors, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour venir nous parler de ton livre « Vivez 100 ans grâce à votre microbiote » qui est sorti aux éditions HarperCollins. Alors, dans le monde, aujourd'hui, on compte plus ou moins 700 000 centenaires. Dans le livre, tu nous expliques qu'on peut vivre mieux et plus longtemps pour finalement, nous aussi, être centenaires. Ce serait l'objectif. C'est quoi les solutions à mettre en place, finalement, pour vivre longtemps et en bonne santé?
Alors, il faut suivre les conseils des centenaires, en fait, que j'ai étudiés et que j'ai déclinés en 10 power, les power 10. On a étudié les centenaires et on a été voir pourquoi ils étaient centenaires. Donc, on a été en Chine, on a étudié 300 centenaires, notamment dans les zones bleues. Hein, je rappelle, il y a Okinawa, Ikaria, Nicoya et en Sardaigne. Vous avez 4 zones bleues où il y a le plus haut taux de centenaires et de super centenaires dans le monde. Et on a étudié leur microbiote. Et on s'est aperçu que le microbiote intestinal des centenaires était celui d'un jeune. Normalement, le microbiote vieillit, comme tout le corps humain. Et bien, sauf chez les centenaires. Et en fait, au lieu, à partir de 70 ans, d'avoir un microbiote de moins en moins varié, et de moins en moins riche en bonnes bactéries, qui est la caractéristique d'un microbiote jeune, et ben eux, ils ont un microbiote de jeune. Et donc la clé, en fait, donc ça c'est récent hein, comme découverte, puisqu'on a eu cette publication en 2020, et donc du coup, on sait aujourd'hui que le levier principal de la jeunesse et de la longévité, c'est le microbiote intestinal.
Et comment on fait pour en prendre soin?
Alors, il y a plein de choses à faire. Il y a évidemment l'alimentation en premier lieu. Et aujourd'hui, on est dans un paradoxe total puisque les personnes ne consomment pas assez de végétaux. Donc, légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, les graines de lin, graines de chia, les oléagineux, noix du Brésil, amandes, etc. Il n'y a qu'en France, je ne connais pas les chiffres en Belgique, mais en France, il n'y a qu'une personne sur 10 qui apporte les 30 grammes de fibres nettes par jour dont a besoin le microbiote. Donc, consommer beaucoup de végétaux, ça c'est une clé, puisque ça contient les prébiotiques, hein, donc la nourriture du microbiote. Et à l'autre côté, on a les aliments ultra-transformés, qui sont surconsommés, 35-40% de l'apport journalier, qui eux, à travers les additifs, les édulcorants de synthèse et les émulsifiants, dégrade le microbiote. Et donc, en fait, il faut augmenter l'un et réduire l'autre.
Alors, toi, dans ton livre, tu as listé 10 caractéristiques universelles pour vivre longtemps et en bonne santé. Le fameux Power 10, hein, dont on parlait il y a quelques minutes. Le premier, c'est gérer le stress. On le sait, à l'actualité, les problèmes de famille, les problèmes d'argent, ça peut créer un excès de stress. Et pourtant, c'est ce que j'ai pu lire dans ton livre, il existe un moyen d'adopter une alimentation anti-stress. Concrètement, on mange quoi?
L'alimentation anti-stress, c'est une alimentation riche en B3, B6 et B9. Également en glutamate pour avoir de l'acide aminobutyrique et du magnésium. Donc par exemple, le magnésium, on sait que il va entraîner une dysbiose intestinale si on en manque. Si on en manque, on a plus de risque de dépression. On a étudié également en IRM, on voit que la zone de la mémoire, l'hippocampe, est plus petite chez les patients carencés en magnésium. Donc on va manger des légumineuses, comme des lentilles par exemple. Il y a beaucoup de gens, très peu de gens qui en mangent, moins d'un sur deux. On va manger des noix du Brésil. on va manger des graines de lin et des graines de chia, par exemple. Tout ça, c'est des apports en magnésium, qui est un anti-stress par excellence. Donc ça, c'est l'alimentation anti-stress que je détaille dans le livre. Il y a également d'autres leviers. Donc les leviers, c'est la méditation. Dans une forêt, au bord d'un lac, etc., 15 minutes, respiration ventrale, la cohérence cardiaque, le fait d'avoir de l'activité physique, tout ça va permettre à l'organisme de fabriquer de la sérotonine. Quand je dis l'organisme, tu l'as compris, c'est les bactéries intestinales qui font le travail, et donc on va équilibrer ainsi son niveau de stress. Donc en fait, c'est simple dans l'absolu à mettre en place, c'est juste un peu une gymnastique à se mettre en tête. Mais en réalité, il n'y a aucun levier qui soit vraiment compliqué si on veut s'y mettre.
Alors tu parlais du sport justement, le deuxième power de ce livre, c'est justement bouger, faire du sport. Quand on pense à sport, on pense directement à la salle de sport, à aller courir sur un tapis, à aller élever de la fonte, etc. On n'est pas là-dedans, il y a moyen de faire du sport de façon beaucoup plus simple, tous les jours. La marche par exemple, c'est un des sports que tu conseilles dans le livre.
Absolument, la marche rapide c'est très bon, 30 minutes de marche rapide par jour, c'est ce que je conseille à mes patients. Et donc ça va agir sur le microbiote intestinal. Et ça va lui permettre de fabriquer des substances anti-inflammatoires, comme le butyrate par exemple. Il n'y a pas de règle, on peut faire quelque chose adapté à soi. Donc le microbiote intestinal est amélioré par donc la marche ou le sport. Et puis il y a les télomères également. Puisqu'on sait que quand on fait du sport, on va booster une hormone qui s'appelle l'irisine, qui est corrélée à la longueur des télomères. Alors les télomères, c'est quoi? C'est le bout des chromosomes. Et ils vont se raccourcir avec le vieillissement. Mais plus ils sont longs, plus on va vivre longtemps. D'ailleurs, on peut doser la longueur de ces télomères sur une prise de sang. Et donc, il y a un exercice que je détaille dans le livre, qui est très simple à faire, qui dure 24 minutes, avec une alternance de marche rapide et de repos, qui a été validé. Et on a étudié le télomère des patients avant et après l'étude, et on a vu qu'il y avait une différence selon qu'ils faisaient ou non cet exercice.
Alors, autre power important que tu détailles également dans le livre, c'est le fait de prendre soin de son sommeil. On entend souvent qu'il faut dormir 8 heures par nuit. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile avec la société dans laquelle on vit. En quoi c'est important de vraiment dormir 8 heures par nuit?
Alors, c'est très important puisque si on dort pas, on va avoir une dysbiose. Si on a une dysbiose, on va avoir une carence en sérotonine et en mélatonine, puisque la mélatonine, l'hormone du sommeil, dérive de la sérotonine. D'accord? Et s'il y a une carence en mélatonine, à son tour, la carence en mélatonine va aggraver la dysbiose. Donc, on est dans un cercle vicieux absolu. Alors, effectivement, bien dormir, c'est pas toujours évident. Faut essayer de dormir 7-8 heures. La définition, c'est de se sentir reposé au réveil 4-5 fois par semaine. C'est un peu ça, les critères. Et c'est hyper important, puisque dans la longévité, on a déterminé dans les études que un bon sommeil permettait d'allonger l'espérance de vie de 3 à 4 années. Donc, c'est absolument colossal.
Parce que c'est un peu contradictoire. Il y a des fois, on dort 8 heures de sommeil, on se réveille, on a vraiment passé une bonne nuit, mais on se sent encore fatigué. Ça témoigne de quoi, ça?
Alors, ça vient du microbiote et de la dysbiose. Et ça vient souvent d'un état de fatigue plus ou moins accumulé. Ouais. Par exemple, il y a le jet lag social, c'est-à-dire si tu as un décalage trop important entre le week-end et la semaine, de plus de 90 minutes, on a étudié ça aussi, et on sait que le microbiote, lorsqu'on dort trop le week-end, va être déséquilibré.
Donc la solution, se dire la semaine, j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je rattrape tout le week-end en dormant jusqu'à midi 13h, c'est pas une bonne idée.
Faut rallonger de 1h30,
ouais.
Et pour le microbiote, c'est parfait.
D'accord.
Et si on le fait une fois de temps en temps, de dormir longtemps, bon, voilà. Mais faut pas que ça devienne une habitude parce qu'effectivement, le microbiote, il aime pas ça.
Et les siestes, on en pense quoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où la sieste, c'est une coutume presque.
Ouais. Alors ça, c'est très important, la sieste. C'est un excellent moyen. C'est l'inemuri, au Japon. Donc c'est des siestes courtes de 15 minutes. Et là-bas, c'est vu comme un signe de bonne santé. Alors qu'en France ou dans les pays européens, c'est vu comme un signe de paresse. Et en fait, c'est très bon, puisque ça va permettre de régénérer, de rééquilibrer son rythme circadien et biologique.
Okay.
Et ça fait du bien au microbiote.
Parmi les autres powers que tu expliques dans ce livre, il y a le jeûne intermittent, une alimentation riche en végétaux, la maîtrise aussi de la consommation d'aliments d'origine animale, viande, les œufs, le poisson, les produits laitiers. Là aussi, on entend tout et son contraire, notamment sur la quantité de viande rouge à manger, sur les produits laitiers aussi. Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent qu'il faut les remplacer par des équivalents végétaux. La charcuterie aussi, c'est un débat qui revient assez souvent. Tu pourrais donner quoi comme conseil par rapport à tout ça?
Là, il faut dissocier complètement les choses, puisque les recommandations sont totalement différentes. Viande rouge, c'est 400 grammes par semaine maximum.
D'accord. C'est l'équivalent de quoi, plus ou moins?
Deux steaks.
Ok, d'accord.
Deux steaks de viande rouge. Si on veut faire un effort pour la planète, comme je fais, c'est 200 grammes par semaine. Parce que j'aime la viande rouge, voilà, et donc je fais un steak par semaine. La charcuterie, c'est 150 grammes par semaine, donc c'est très peu. Et ça, donc, il faut pas dépasser. À l'inverse, les œufs, c'est très bon, puisqu'on sait que consommer 4 œufs par semaine ou plus, ça diminue le risque de maladie d'Alzheimer.
Ok.
C'est démontré par les études, puisque dans les œufs, il y a la choline, hein, qui est une protéine anti-inflammatoire. Les laitages, alors c'est comme je le dis souvent dans mes livres et dans les médias, c'est la plus grande, on va dire, supercherie ou anomalie du moment. Puisque les laitages, contrairement à ce qui est véhiculé comme fake et désinformation, c'est très bon pour la santé humaine. Puisque les recommandations, il existe des recommandations en fait internationales des sociétés de cancérologie ou de gastroentérologie, c'est 2 produits laitiers par jour, c'est-à-dire 30 grammes de fromage, un yaourt ou équivalent, et ou un petit verre de lait. Voilà ce que c'est une portion, et il en faut 2 par jour. Pourquoi il en faut 2? Parce qu'en fait, on sait dans les études que ça diminue le risque de cancer du côlon.
D'accord.
Et ça diminue le risque de cancer du sein. En France, on a un vrai problème, comme dans plein d'autres pays, puisque notamment les jeunes, ils ont basculé vers des boissons végétales sous l'influence de certains lobbies. En France, il y a 38% des jeunes, donc jeunes, ça veut dire moins de 50 ans, qui consomment pas du tout de produits laitiers. Et en France, tous les ans, on a 854 cancers du côlon générés par l'absence de consommation de produits laitiers. Donc c'est quelque chose contre lequel je lutte. Il faut absolument que l'information circule pour arrêter de penser que les laitages, c'est inflammatoire. C'est l'inverse. C'est même anti-inflammatoire. Et on le recommande même dans l'endométriose, par exemple.
Parmi les autres powers que tu expliques dans ce livre, il y a bannir les aliments ultra transformés, on en parlait tout à l'heure, et limiter la consommation de sucre. On le sait, le sucre, ça crée des addictions vachement importantes. Comment on peut se dire que notre consommation de sucre, elle est problématique? À quel moment est-ce que ça devient un problème, la consommation
de
sucre?
Alors, c'est 6 cuillères à café de sucre, donc c'est très peu. Ça, c'est le sucre ajouté, bien sûr. Hein. Je ne parle pas des sucres qu'il y a dans les féculents ou autres. Et en fait, on sait que la consommation de sucre va avoir beaucoup d'impact sur la santé. Ça va induire une dysbiose, donc déséquilibre du microbiote. Ça va même altérer notre ADN.
Okay.
Et ça va jouer sur nos télomères, donc ces fameux marqueurs de longévité. Alors, on peut prendre un exemple. On a une tribu absolument fascinante, parce que je m'intéresse bien sûr aux ancêtres, puisque les ancêtres, par définition, ils n'ont pas le même microbiote que nous, puisqu'ils mangeaient sainement. Donc, les Tsinamés, par exemple, c'est une tribu amazonienne. Et en fait, eux, ils consomment pas du tout de sucre, ni d'aliments ultra transformés. Donc, ils consomment des tubercules, des fruits, des légumes, etc. Et de la chasse l'été. Et donc, on a été l'étudier. Enfin, les anthropologues ont été dans cette tribu. Et ils ont un taux de maladie d'Alzheimer et de démence le plus bas du monde.
Alors parmi les autres powers, il y a le fait de positiver, arrêter de fumer aussi, et puis prendre soin de notre bouche. Comment on prend soin de sa bouche? On se lave les dents ou ça va plus loin que ça?
Ça paraît une évidence, mais malheureusement, tout le monde ne fait pas ce qu'il faut. Il faut le savoir. Bon, d'abord, faudrait arrêter de fumer quand on le peut, parce que le tabac, c'est un facteur de dysbiose buccale extrêmement important. Quand il y a une dysbiose, alors là, ça, c'est pas connu non plus du tout, mais en fait, ça augmente le risque de maladie d'Alzheimer, de cancer du côlon et d'athérosclérose, c'est-à-dire de maladie des vaisseaux. Et il y a notamment Porphyromonas gingivalis, c'est une bactérie qui va se mettre à proliférer en cas de dysbiose. Comment prendre soin de ses dents? Donc, voir le dentiste une ou deux fois par an pour le détartrage et puis vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Se brosser les dents 2 fois par jour minimum, 3 si on peut après le repas, après le déjeuner. Et puis, lorsqu'il y a un enduit blanchâtre sur la langue, mais pas d'une façon systématique, là aussi il y a des informations fausses qui circulent, on peut se brosser la dent doucement, doucement de l'intérieur vers l'extérieur avec une brosse douce.
Okay.
Mais on le fait quand on se tire la langue. Si elle est rose, on fait rien. Si on voit un petit dépôt blanc, eh ben, on fait un petit brossage doux. Voilà, c'est tout.
Il y a de nombreuses brosses à dents maintenant avec au dos de la brosse à dents, des lave-langues, comme on pourrait appeler ça. C'est une sorte de raclette, si je dois faire un dessin. Ça, c'est pas conseillé du tout.
Non, c'est trop violent. C'est trop violent, puisque ça, c'est générateur de dysbiose buccale au niveau de la langue, puisque ça agresse, en fait. Et ça crée des micro-inflammations. Donc, faut le faire doucement, juste pour enlever le biofilm. Ce biofilm, c'est un début de dysbiose buccale, et on le fait doucement, tout simplement.
Bon, là, on a toutes les clés en main, finalement, pour vivre longtemps. Mais s'il y a des auditeurs qui se disent « Allez, ça y est, je vais prendre soin de mon microbiote », à partir d'aujourd'hui, on commence par quoi? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner?
Alors, le capital, c'est l'alimentation, évidemment, puisque on sait que... Alors, déjà, en activant les leviers dont je parle dans le livre, on sait par les études qu'on allonge son espérance de vie de 15 à 20 ans.
C'est impressionnant.
C'est très impressionnant.
Et c'est des moyens qui sont assez simples à mettre en place.
Exactement. Et l'alimentation, notamment riche en végétal, si on commence à 40 ans, donc relativement tardivement, on va dire, on augmente son espérance de vie. Tout ça est démontré dans les études de 10 années. Et si on commence plus tard, parce qu'on n'a pas eu l'info, c'est-à-dire à 70 ans, il est prouvé également qu'on allonge son espérance de vie de 5 années. Donc il n'est jamais trop tard pour se mettre à bien manger, à avoir une alimentation microbiotique pour vivre longtemps en pleine santé.
Alors, on parle aussi de plus en plus de transplantation fécale. Ça consiste en quoi et ça sert à quoi, ça, concrètement?
Ça consiste à prendre des selles d'un donneur sain, qui n'a pas de maladie, et de les transplanter à quelqu'un qui est malade. Alors, aujourd'hui, en France, on a une seule indication qui sont les infections récidivantes à une bactérie qui a un nom savant, qui s'appelle Clostridioides difficile. C'est une bactérie dure à traiter. Et donc, on peut, chez ces patients-là, du coup, transplanter des selles et on les guérit. Mais, dans les travaux de recherche, et ça va être l'enjeu des années à venir et des décennies, on a des travaux sur la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, également dans les cancers, c'est-à-dire qu'on peut rendre des personnes qui sont pas répondeurs à un traitement, chimiothérapie ou immunothérapie, répondeurs, en transplantant les selles et en modifiant le microbiote, puisque la non-réponse vient souvent d'un microbiote qui est pas réceptif. Donc ça, c'est quelque chose qui est validé, mais dans une indication, pour l'instant, très ciblée. Mais il est clair que ça va se développer dans les années, dans les décennies qui viennent, et ça va rentrer dans l'arsenal thérapeutique courant.
Bon, si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à aller suivre William sur son compte Instagram. Dr. William Bérébi, c'est un réel plaisir de te recevoir ici sur Fun Radio. Dr. William Bérébi, donc, vivez 100 ans grâce à votre microbiote. C'est ce livre qui est sorti aux éditions HarperCollins. Merci William d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Retrouvez Fun4You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.